Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur déjà. Allez, décide. Comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, François Pinet.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour le premier after de l'année. On vous souhaite une très très belle année 2020 avec ce soir Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut, bonsoir à tous et bonne année à tous.
Bonne année Kevin. Jonathan McCardy est là aussi, salut Jonathan.
Salut les gars, bonne année.
Il a fait la fête visiblement.
Non, je faisais n'importe quoi.
Je sais pas, c'est la voix, le ton de ta voix, alors on a l'impression que t'es un peu fatigué.
Non, tout va bien.
Tout va bien, en plateforme.
Ça, c'est vraiment de la diffamation.
Non, pas du tout. Damien Périnel est là aussi. Salut Damien.
Bonsoir tout le monde et bonne année tout le monde.
Alors, on vous souhaite plein de bonnes choses. Hein. Personnellement, évidemment, Kevin, Jonathan, Damien, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2020. Je ne sais pas si vous avez un souhait particulier pour votre année. On parlera bientôt des vœux foot, hein. Mais pour vous, non? De l'amour?
Oui, bien sûr.
Bonheur.
De la santé.
Et la santé, hein. After exceptionnel ce soir, donnez-nous vos vœux pour 2020, pour votre équipe de cœur par exemple, pour la Ligue 1, pour l'équipe de France, que vous voulez. Vous nous appelez 32-16, vous passez quand vous voulez dans l'émission, on essaiera de prendre un maximum de personnes. Si vous avez des vœux particuliers, n'hésitez pas, bien sûr concernant le football, hein, toujours. On vous attend au 32-16, on vous attend aussi sur un hashtag spécial mis en place pour vous, mon vœu foot 2020 sur Twitter. Vous y allez et vous nous donnez vos vœux pour l'année 2020 en foot. Et puis l'appli RMC, pour ceux qui n'ont pas Twitter, c'est ouvert également. Vous allez sur Direct Studio. On essaiera de relayer vos vœux pour cette année 2020. Le mercato d'hiver est lancé aussi depuis minuit, vous le savez. On fera le point sur les dernières infos mercato du jour. Et c'est aussi l'occasion de se demander quel est pour vous le transfert de la décennie. Pas forcément le plus cher, hein, mais le transfert qui vous a le plus marqué ou le transfert qui vous a peut-être le plus surpris, le transfert qui a tout changé dans une équipe. Voilà, vous nous le dites également au 32-16 ou sur le hashtag RMC Live sur Twitter. Ce sera à 22h. 2020 aussi, année importante, vous le savez, pour les Bleus, avec l'Euro en ligne de mire. À quoi ressembleront les Bleus lors de la compétition? On en parlera à 22h30. Et puis bien sûr, la Première Ligue au programme de cet after. À 23h, on débrief avec Julien Laurence les 9 matchs de la 21e journée aujourd'hui. Je vous donne juste les scores. Manchester City a battu Everton 2-1. Southampton s'est imposé face à Tottenham 1-0. Match nul entre Brighton et Chelsea, 1-0 avec déjà l'un des buts de l'année 2020. Newcastle-Leicester, victoire de Leicester 3-0 à Newcastle. Watford s'impose face à Wolverhampton 2-1. 1-0 entre Norwich et Crystal Palace. Et pour le retour de David Moyes, West Ham s'impose face à Bournemouth 4-0. Enfin, la victoire d'Aston Villa sur la pelouse de Burnley 2-1. Et le direct dans cet after, puisque on va suivre Arsenal Manchester United avec Clément Brossard. Salut Clément, bonne année.
Salut François, salut à tous, meilleurs vœux messieurs. L'after foot est parti, un match aussi est parti depuis 4 minutes. Et quel match, Arsenal Manchester United. On joue, on s'est fait de fin d'année en Angleterre, on a de belles affiches après Chelsea. Ce sont les Red Devils qui se frotte à une équipe d'Arsenal dans un mal-être profond, 12e, qui n'a toujours pas réussi à gagner sous les ordres de Mikel Arteta. C'est la deuxième à l'Emirates Stadium et après une défaite renversante, hein, je vous rappelle qu'il y a quelques jours Arsenal menait 1-0 et s'est retrouvé battu par Chelsea 2-1, 2 buts pris en 4 minutes et une défaite cinglante. Il va falloir donc redresser la barre pour ces Gunners et venir à bout d'une équipe de Manchester United qui roule plutôt bien pour l'instant, 5e, toujours en approche de ce Big Four. Match ô combien engagé, attention, on l'a vu déjà puisque Sead Kolasinac a déjà pris un premier carton jaune au bout de 4 minutes de jeu, toujours pas de but pour l'instant. À rappeler juste une petite info composition: Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Nicolas Pepe alignés au coup d'envoi pour les Gunners, pas de Paul Pogba côté Manchester United. En revanche, Marcus Rashford et Anthony Martial, la paire, le duo terrible de Manchester United, est bien présent sur la pelouse de l'Emirates. 5e minute, 0-0 entre Arsenal et Manchester.
Merci Clément, tu interviens quand tu veux dès qu'il se passe quelque chose dans cette rencontre Arsenal-Manchester United qu'on débriefera avec Julien Laurence à 23h. On va commencer par vos vœux 2020. D'ailleurs, il y a déjà quelques vœux sur le hashtag Mon vœu foot 2020. Il y a des supporters de l'OM qui nous dit, par exemple, Am MRX qui nous dit l'OM en Ligue de Champions. Voilà, par exemple, ou Alex Nissa du 06 qui est un supporter niçois qui veut que Nice retrouve l'Europe en fin de saison ou même que Nice aille en finale de Coupe de France. Voilà, pour permettre au peuple niçois de retourner au Stade de France. Il y a également Peter, supporter du PSG, qui nous dit il veut que Neymar et Mbappé prolongent au PSG. Voilà quelques exemples de vœux, vous pouvez continuer évidemment sur le hashtag RMC Live et on vous attend au 32-16. Alors je vous ai demandé vos vœux, messieurs, pour l'année 2020. On va peut-être commencer par toi, Jonathan. Comme tu es celui qui a moins fêté le réveillon, tu es celui qui est le plus en forme, visiblement.
Ouais, exactement.
Tu veux, toi, du changement en Ligue 1 concernant les coachs, par exemple?
Bah, je prends pour
c'est
exemple
ton vœu 2020.
Ce qui s'est passé là à Toulouse, où au final le président Sadran avait fini par faire revenir Alain Casanova. Une fois que ça, il se rend compte de l'évidence, c'est-à-dire que Casanova n'est pas l'homme de la situation, il fait revenir Antoine Camboiré. C'est des noms en fait qui ont déjà écumé un petit peu les bancs du championnat de Ligue 1 ou de Ligue 2. Et en fait, ce qui a deux choses qui me rendent très positif, c'est que je vois beaucoup de coachs qui pour l'instant n'ont pas eu encore accès à des bancs plus prestigieux. Je pense à Dalloglio, je pense à Pélissier, qui pour moi aurait dû être l'homme de la situation à Toulouse. Je pense au travail exceptionnel que fait Stéphane Moulin à Angers. Je pense à David Guillon. Il y a une sorte de renouvellement et j'espère que enfin on va assister à un renouvellement qui soit pas juste partiel mais total et que cette nouvelle vague entre guillemets d'entraîneurs puisse avoir accès à des bancs de clubs qui jouent les 5 premières places du championnat.
Voilà, donc le vœu, j'imagine qu'il est partagé un petit peu partout. Là, tu as pris l'exemple uniquement d'Antoine Camboiré. Il y a peut-être d'autres cas justement d'entraîneurs qui se retrouvent à chaque fois sur des bancs de Ligue 1.
Bah, là, pour l'instant, il n'y est pas, mais ça ne m'étonnerait pas qu'Elibop finisse par revenir, tu vois, qu'il reprenne un nouveau banc. Alors, c'est vrai que le phénomène a tendance à un petit peu s'inverser. Il y a un moment où dès qu'un entraîneur était renvoyé, tu disais, bon, c'est soit Bob, soit Antonetti qui va prendre la place. Là, écoute, je pense que nos entraîneurs français, on leur casse du sucre sur le dos, parfois un petit peu à tort, mais je pense qu'il y a une nouvelle génération, entre guillemets nouvelle, hein, mais qui fait du bon travail depuis 4-5 saisons, et j'ai hâte de voir jusqu'où ils peuvent aller. Je pense qu'un entraîneur comme Christophe Pélissier, c'est une anomalie qu'ils sont en Ligue 2.
Ouais. Ou tu penses peut-être à Julien Stéphan de Rennes.
Julien Stéphan, pour l'instant, c'est sa deuxième saison. On va voir comment ça se passe. Mais oui, c'est prometteur. Après, dans le jeu, attention, Julien Stéphan, c'est un peu l'entraîneur typique de Ligue 1, hein, contrairement à ce que on veut bien nous dire. Hein.
Ah bon ? Bon, on va en parler juste après parce qu'il se passe des choses.
Le but de Nicolas Pépé. Nicolas Pépé aligné titulaire par Mikel Arteta. Eh bien, c'est le choix payant. Il n'a joué qu'un quart d'heure sur les deux derniers matchs. Titulaire aujourd'hui, il vient ouvrir le score pour Arsenal. La réception d'un ballon au second poteau, il ne laisse aucune chance à David De Gea et met cette équipe d'Arsenal sur orbite. Une équipe des Gunners, ô combien dans la difficulté, 12e de Première Ligue avec 3 défaites consécutives à domicile. Ce n'était plus arrivé depuis 1977. Il fallait absolument réagir et ça vient d'un homme de retour également. C'est Ad Kolasinac de retour de blessure. Le centre au second poteau et derrière Nicolas Pépé, l'ancien Angevin qui vient inscrire son troisième but cette saison, les 80 millions d'euros qui ont beaucoup été attendus par les supporters d'Arsenal et qui sur un match comme ça décisif eh bien font la différence. Pépé marque, 9e minute, Arsenal 1, Manchester 0.
Il va pas être annulé ce but hein, parce qu'on a vu tellement pour des positions de hors-jeu ces derniers
impossible,
temps des buts annulés. Là, Kolasinac il est pas hors-jeu. Hein.
Il est hors-jeu, mais encore une fois, on voit toute la défense de Manchester United lever les mains et on sait qu'en Angleterre, ça prend 2-3 minutes avant de vérifier une première fois s'il n'y avait pas hors-jeu sur la première occasion, s'il n'y avait pas une faute juste avant.
Mais cette fois-ci, validé.
Ouais, il est validé, il n'y a rien à dire. Nicolas Pépé, un but à zéro pour Arsenal face à Manchester.
Anecdote sur ces buts hors-jeu ou pas, validés ou pas par l'assistance vidéo. Dans le match entre Manchester City et Everton juste avant cet après-midi, eh bien, chaque but de Manchester City a été fêté deux fois, au moment du but et au moment du coup d'envoi, parce que le public, voilà, un peu ironiquement, à chaque fois applaudissait lorsque l'arbitre donnait enfin le
double
coup d'envoi
choix
pour valider le but.
Je crois qu'on va reparler de la vidéo avec toi, ça fait partie de tes vœux 2020, ouais. Kevin. Mais juste pour revenir sur ce que disait Jonathan, vous êtes d'accord, effectivement, un vent de fraîcheur est indispensable en Ligue 1, sur les bancs de Ligue 1.
Ouais, c'est pas spécialement sur les coachs qui sont sur les bancs, c'est surtout sur la manière d'appréhender le foot et leur mentalité. Parce qu'on peut avoir un contre-exemple à ce que dit Jonathan, c'est un Christophe Galtier qui pendant très longtemps à Saint-Etienne nous a proposé un jeu qui était chiant à voir, pragmatique au possible.
C'est vrai.
Et qui, une fois arrivé à Lille, là, s'est vraiment révélé. Il a pris un
ça
peu.
Ça n'a pas toujours été le cas à Saint-Etienne, hein. Ça dépendait des saisons. Il y a des saisons où ils enchaînaient les purges.
Il y avait quand même une image d'entraîneur défensif.
Ouais, mais c'est
vrai. En fait, Galtier, c'était pas forcément un entraîneur défensif ou offensif. C'est plutôt un entraîneur qui est pragmatique.
Exactement,
et qui joue en fonction de son matériel et en fonction de ce qui lui est proposé au niveau de son matériel.
L'année
joueur.
Où il avait Aubameyang, Brandao et tout, ça jouait quand même pas mal, Saint-Etienne.
Sauf que je peux vous dire que depuis qu'il est à Lille et qu'il a eu une vision différente en parlant avec Campos d'un nouveau jeu, d'un nouvel état d'esprit, un nouveau projet de jeu. Et même lui, dans son ambition, quand il parle, c'est plus le même Christophe Galtier qu'on a pu avoir à Saint-Etienne.
Oui, c'est un entraîneur
dans
qui est
jeune,
bien sûr. Ouais.
Et quand on avait...
C'est un entraîneur qui est jeune aussi, non, Damien.
Bah, ouais, il a quand même un peu de bouteille.
Il a de l'expérience,
hein,
il a de la bouteille, mais il est pas âgé non plus. Quoi.
Il est encore frais, tu veux dire.
Ouais.
Je veux dire, voilà, s'il y a un certain renouvellement, peu importe le type.
Il est plus âgé que
Tomboiré.
C'est ce que dit Damien, et ça va rejoindre aussi mon point à moi, qui voulait dire que je voudrais voir en 2020 une Ligue 1 qui se rapproche de ce qu'on a vu, hein, Jonathan, sur la dernière journée, ce fameux multiplex, sur cette dernière journée du mois de décembre 2019, où on a vu des buts, où on a vu du spectacle. Parce qu'aujourd'hui, où revient souvent le thème des entraîneurs, comme a dit Damien, de la qualité de jeu proposé, voire de la philosophie, il y a aussi toute ce débat sur les droits TV, le prix des droits TV, le prix des abonnements et surtout la qualité du spectacle proposé. Et ça, aujourd'hui, on voit la Première Ligue encore là pendant ce Boxing Day ou Super Boxing Day. Alors, il n'y a pas que des matchs de niveau Ligue des Champions en Première Ligue, mais c'est tout un état d'esprit. C'est vraiment une fête et un spectacle qui est proposé. Et ça, c'est ce qui est plus important aujourd'hui dans le football de haut niveau, avec la qualité et la quantité de l'offre proposée pour le téléspectateur. Ça va être très important de tirer vers
là. Je te rejoins, Kevin, dans le sens où le changement le renouvellement sur les bancs, ça doit pas être juste ça. Il y a ça, le qui est un vrai problème en Ligue 1, et il y a aussi la manière dont fonctionnent les clubs et dont sont gérés les clubs. On va parler d'un club qui est cher à ton cœur, l'Ajax. Est-ce que ça serait pas possible aussi qu'en Ligue 1, on ait une cellule de recrutement qui soit aussi performante que celle de l'Ajax, qui soit capable d'anticiper, qui fasse pas les choses au dernier moment, qui prépare un mercato une semaine avant l'ouverture du marché. Non, je pense que beaucoup de clubs de Ligue 1 devraient s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger aussi dans le fonctionnement, dans la cellule de recrutement, dans la manière dont les scouts sont formés et envoyés sur tel ou tel terrain. Et là, je pense que les deux, tu vois, un entraîneur, des entraîneurs au projet de jeu plus ambitieux, avec un petit peu d'originalité par rapport à l'entraîneur lambda de Ligue 1, plus une cellule de recrutement, des cellules de recrutement qui travaillent mieux, qui soient capables d'aller faire des vrais bons coups avec les moyens, en fonction des moyens de chaque club, on aurait un championnat qui ressemblerait à autre chose.
Après, de toute façon, alors moi, c'est pas moi qui en ai parlé, hein, Jonathan, c'est toi qui l'as fait, mais il n'y a pas que l'Ajax qui travaille bien.
Non, bien sûr, exemple parce à cause de la Ligue des Champions. Non,
bien sûr. Et alors, on va me dire, mais cette saison, ils se sont fait éliminer. Non, mais forcément, ils se sont fait éliminer parce que l'Ajax, c'est un budget qui est, par exemple, qui est inférieur à Lille, qui est inférieur de beaucoup à Marseille, à Lyon et compagnie. En tout cas, nos meilleurs clubs. Donc, forcément, il y a des trous. Mais il y a d'autres pays, hein, comme le Portugal, voire même comme certains clubs italiens, les plus petits, pas forcément les plus connus. Mais tu vois, je vois des clubs en Italie qui recrutent toujours intelligemment, peut-être dans les pays de l'Est, voire dans les pays scandinaves. Il y a des bons joueurs. Et en fait, comme dit, il y a Reims par exemple qui l'a fait un peu avec Zenelli, qui était à Eredivisie aux Pays-Bas.
Mais Reims, ça travaille bien.
Reims, Angers aussi qui recrute plutôt bien.
Ça arrive bien aussi.
Les choses sont faites dans l'ordre, tout simplement.
Exactement.
C'est-à-dire que t'as un président qui est là pour superviser. T'as à Reims, on prend l'exemple, t'as Mathieu Lacour qui est là en directeur sportif et qui lui décide un peu de l'orientation sportive avec le coach. Ainsi de suite, c'est fait en concertation. Il recrute les joueurs en fonction de ce que veut le coach aussi. Enfin, au bout d'un moment, voilà. C'est-à-dire, quand tu travailles dans l'ordre et dans l'ordre des choses, t'as beaucoup plus de chances d'y arriver.
Il y a beaucoup trop de clubs dans le championnat qui justement ne travaillent pas dans l'ordre. Alors c'est difficile de leur taper dessus parce qu'ils sont vraiment dans la panade en ce moment. Mais quand tu vois la manière dont fonctionne Nîmes, c'est une anomalie que ce club soit en Ligue 1. C'est un club qui est extrêmement sympathique, les supporters sont géniaux, ils ont des joueurs que t'as envie d'aimer. Mais comment un club de Ligue 1 peut fonctionner sans cellule de recrutement?
Ils ont pas d'argent non plus, hein.
Ben,
ils ont pas
de budget.
Non, mais justement, il y a deux choses.
Pourquoi ça t'empêche d'avoir une cellule de recrutement?
Justement, regarde. Ça coûte de l'argent quand même, une cellule de recrutement.
Mais non, mais regarde,
des scouts que t'envoies.
François, prenons le problème à l'envers pour rejoindre mes collègues. Damien vient de dire, ils font les choses à l'endroit, dans l'ordre. C'est-à-dire que pour moi, Reims et Angers, pourquoi ils recrutent bien? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de ne pas bien recruter, oui, en fait. Alors forcément, il y a toujours une marge d'erreur. On ne sait pas comment le joueur va s'adapter, une blessure, voilà. Le football, c'est quelque chose qui est difficilement prévisible. Mais quand même, quand tu travailles bien, parce que tu sais que de toute façon, tu n'as pas abondance au niveau financier, tu dois faire les choses du mieux possible. Après, je répète, bien sûr, il y aura du déchet, mais il y en a partout du déchet. Ouais. Dans n'importe quel grand club, il y a du déchet, et encore voire beaucoup trop. Mais je trouve que certains clubs qui ont un peu trop de moyens, voire qui se projettent un peu trop avec les droits TV pour quelques cas, attention.
21h15 sur RMC, on est dans l'after, évidemment. Kevin Diaz, Damien Perrinel et Jonathan McCarty sont là pour écouter vos vœux 2020. C'est ce qu'on vous propose ce soir sur le hashtag MonVœuFoot 2020, mais aussi au 32-16. Vous êtes nombreux à appeler, comme l'a fait Julien qui nous rejoint. Bonsoir, oui, Julien.
Bonsoir. Et meilleurs vœux. Bonne année à toutes.
Bonne année. Meilleurs vœux. Ouais. Alors, quel est ton vœu 2020?
Aimer mon équipe, retrouver le plaisir.
Donc tu es supporter de Lyon, hein, je précise.
Exactement, de l'OL. Fin 2019 a été compliqué. Mais je voudrais revenir de ce que vous venez de dire sur la cellule de recrutement et les scouts notamment. Il ne faut pas oublier que Lyon a recruté intelligemment il y a 2 ans, quand ils ont recruté Ndombele et Mendy, qui étaient inconnus au bataillon, et qui après ils ont été revendus très très cher, donc l'un à Tottenham et l'autre au Real. Après, je pense, juste pour le fonctionnement, honnêtement, même si je suis un aficionados de Juninho, que j'ai été percé par ses buts quand j'étais au stade, quand j'étais gamin, je pense qu'il y a un problème au niveau de la cellule de recrutement depuis cet été. Voilà.
C'est quoi? Après, c'est la coordination avec Laurent Maurice?
Oui, je pense que pas forcément qu'avec Florian Maurice, mais je pense que il y a une cassure à un moment où quand il a pris Silvinho, tout le monde était enchanté au départ. Les 2 premiers matchs, on s'est cru qu'on allait être champion de France tout de suite. Mais je pense qu'après il y a une petite cassure à la fois avec le staff technique et à la fois avec le staff un peu plus haut qu'on ne voit pas et qu'on ne parle pas, quoi. Comme Gérard Houllier, on en parle très peu. Lacombe, qui a pris sa retraite, mais je pense que ça a été une retraite un peu poussée, on va dire. Et Aulas, qui commence à revenir un peu, remonter au créneau pour ça.
Mais tu sais, de toute façon, après nous, on va avoir du mal à parler de ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire de ce qui se passe vraiment dans les coulisses de l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, ce que tu dis, ça rejoint ce qu'on était également en train d'évoquer, oui, c'est-à-dire que voilà, le serpent à 2, à 3, à 4, à 5 têtes, c'est difficile dans un club de football. Il faut qu'il y ait un patron,
un club qui a gagné des titres et qui depuis 10 ans. Malheureusement, on n'arrive plus à gagner. Et l'année dernière, c'était une année où on aurait dû gagner au moins quelque chose. Quand on joue 2 demi-finales à la maison et qu'on les perd.
Julien, en fait, il n'y a rien d'affamant en soi à ne rien gagner depuis 7-8 ans et le PSG. Ce qui est plus problématique. Oui, mais justement, c'est de ne pas les mettre un peu plus en difficulté que ce qui a été le cas jusqu'à présent. C'est-à-dire vraiment de les faire batailler. Monaco en a été capable. Je pense que Lyon aurait pu en être capable également. Mais c'est surtout ça, en fait.
Ce qui est le vrai problème de l'Olympique Lyonnais, c'est que t'es dans une année, allez, on va dire une séquence de deux saisons où c'est une séquence qui est extrêmement charnière pour ton club. Il y a eu ce début de révolution entamé avec la nomination de Juninho et Jean-Michel Aulas qui devait se mettre en retrait. Rappelons-nous, hein, quand il décide de prendre Juni, il dit moi maintenant on va moins me voir, je vais moins m'occuper des affaires courantes du club, etc. Le problème, c'est que la révolution, elle était faite à moitié, parce que cette révolution aurait dû s'accompagner d'un entraîneur de très haut niveau. Là, exactement, malheureusement, vous êtes planté. Juninho a voulu prendre Silvinho en entraîneur novice, et je continue de dire qu'un entraîneur novice pour un grand club, ce n'est à moins un miracle comme Zidane, ça ne marche jamais. Et maintenant, là, ce qu'il va falloir, c'est bien voir comment l'Olympique Lyonnais va se comporter sur la demi-saison qui reste, plus la saison à venir, sur plusieurs points. Le premier, sur est-ce que Jean-Michel Aulas va vraiment donner les clés du camion à Juninho. Et moi, personnellement, je pense que même si les débuts ont été compliqués, l'idée est bonne. Et comment tu vas gérer le dossier de l'entraîneur, parce qu'on est bien d'accord que Rudy Garcia est un intérimaire à ce poste-là, et qu'il va falloir enfin, parce que ça n'a jamais été fait, que Lyon se décide à recruter un entraîneur du standing du club, c'est-à-dire un entraîneur du standing européen.
Il y avait Blanc. Là, je ne comprends pas pourquoi Blanc il a été pris. On ne le saura jamais. Mais Blanc, c'était un entraîneur qui aurait pu faire passer un cap à l'OL. Voilà.
Peut-être, oui.
Voilà. Après, ils ont leurs raisons. Alors, est-ce que c'est des raisons pour le staff, parce que on sait que Jean-Michel Aulas adore avoir cette idée de pro-lyonnais, de gens formés au club ou de gens qui connaissent le club.
Sa petite top.
Voilà, donc garder un peu des gens comme Patrick qui sont là depuis longtemps, comme Redici, le kiné qui est là depuis très très longtemps, voilà, etc. Est-ce qu'il a pas eu peur, est-ce qu'il a eu peur de cette révolution, je sais pas.
Visiblement, Gérard Houillet était pas non plus très très chaud pour. Après, pour le recrutement de Laurent Blanc.
Tu sais, si Rudy Garcia, tu le prends.
Il y a des Schreie à l'époque. Hein,
ouais, en fait, mais si tu prends Rudy Garcia et que ça reste, voilà, pour finir la saison, pour limiter la casse, à la rigueur, c'est peut-être bien de ne pas avoir pris Laurent Blanc et de te laisser la fin de saison pour justement cette fois prendre un entraîneur qui sera peut-être même dans un standing supérieur à celui de Laurent Blanc.
On va remercier Julien. Merci beaucoup. Pour 2020, si on a bien compris, pour Lyon, tu espères quoi? Au moins une victoire en coupe, peut-être, ou?
Ouais, une coupe, ou même pas forcément une victoire, mais enfin pas de gagner une coupe, mais
vibrer.
Qu'on retrouve ce plaisir, okay. Qu'on retrouve cette envie de regarder le match et de vibrer.
Eh ben, ton vœu est passé alors. Très bien, merci beaucoup. Salut. Et merci, bonne année à toi encore.
Bonne année,
merci beaucoup. Christophe et Benjamin sont au 32-16, ils nous attendent pour également partager leurs vœux 2020. Si vous voulez faire comme eux, vous faites le 32-16 ou sur le hashtag mon vœu foot 2020 sur Twitter ou encore sur l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas. Arsenal Manchester United, c'est parti et bien parti. Clément Brossard, 21e journée de Première Ligue.
Et la 21e minute à l'instant, 1-0 pour les Gunners grâce au troisième but de Nicolas Pépé. Mikel Arteta n'a toujours pas gagné avec Arsenal, n'a toujours pas gagné à domicile. Une seule victoire sur les 12 derniers matchs pour les Gunners. Pour l'instant, ça se profile bien. Mais attention, on se rappelle qu'il y a quelques jours, Arsenal menait 1-0 jusqu'à la 83e minute face à Chelsea avant de s'incliner de 2-1. Pour l'instant, Manchester United ne montre rien. Pas d'offensive, un seul tir, loin d'être cadré, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui, d'une volée à la 10e minute, aurait bien pu faire le break pour Arsenal. 1-0 pour l'instant. Le buteur Nicolas Pépé, on joue depuis 22 minutes.
Merci beaucoup Clément. Juste message de Kudo qui nous dit on peut espérer des clubs de Ligue 1 moins minables en Ligue Europa. Et je crois que ça rejoint le vœu de Damien Perinel. On en parle tout de suite avec vous au 32-16. Christophe et Benjamin sont déjà là. On arrive tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot. François Pinet.
21. Nous sommes avec l'Olympique Lyonnais, des vœux pour que notre Olympique Lyonnais retrouve la santé lui aussi, avec les nombreuses blessures que nous avons connues mais qui sont maintenant du passé.
Voilà les vœux de Jean-Michel Aulas pour l'année 2020 pour les Lyonnais. On avait un supporter lyonnais justement il y a quelques instants au 32-16. Christophe et Benjamin nous attendent également pour les vœux 2020. On vous propose de proposer vos vœux pour votre club de cœur par exemple ou pour votre foot en général.
Le vœu qu'il faut faire à nos amis lyonnais, c'est que Rudy Garcia parte en vacances et ne rentre jamais.
Quand même,
ça pourrait être pas mal pour eux. Il reste en vacances, il décide de rester en vacances, il se reconvertit.
Il est en forme,
il se reconvertit, je sais pas, tu vois. Il a été à Hawaï, il se reconvertit, il fait du surf, je sais pas, peu importe, mais qu'il ne revienne plus entraîner l'Olympique Lyonnais. Je pense que ça sera un beau cadeau pour nos amis lyonnais.
Peut-être qu'il y en a certains qui partagent effectivement ton avis. Damien.
Certains. Les trois quarts, ouais. Arrête.
Damien, on va parler un petit peu de ton vœu pour 2020 pour le foot.
Et ouais, ce serait surtout que les clubs français respectent un peu plus la Coupe d'Europe, parce que c'est bien beau de vouloir se battre pour jouer et avoir une place européenne, mais quand on représente le championnat de France lors de ces différentes Coupes d'Europe, soit la Ligue des Champions ou l'Europa League, en gros on a une mission quand même, on a un devoir de représentation du championnat de France, et on s'aperçoit que parfois on s'est pris par-dessus la jambe, et surtout, la chose qui m'agace, c'est quand on voit les tirages au sort, on a toujours un peu cette arrogance et cette prétention de dire qu'on est supérieur à beaucoup de championnats, que les autres championnats dits mineurs, tels les championnats portugais, les Belges ou même l'Autriche, que eux en fait ne savent pas bosser et qu'il y a que nous. Nous, on a la science infuse, on sait comment ça va se passer, on sait comment on va jouer. Et en fin de compte, ça rend des matchs de poule, des phases de poule, pardon, avec 0 point, 1 point. Et au bout d'un moment, il va falloir se poser la question du pourquoi, du comment, on en arrive à là. Alors, on parle souvent de fraîcheur physique, de jouer tous les 3 jours, mais quand on voit les Espagnols, eux, il me semble que leur championnat, il est quand même assez difficile, physiquement aussi, c'est exigeant. Mais eux, non, ils arrivent quand même aussi à avoir des représentants à chaque fois dans le dernier carré, dans les quarts de finale. Alors voilà, est-ce que c'est les droits télé vont changer quelque chose? Mais ces droits télé, ils vont servir à quoi en fait? À investir de l'argent sur des joueurs, ou alors à structurer un club, à avoir un effectif plus étoffé pour aller plus loin dans ces coupes d'Europe? Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, on a un devoir de respect envers cette compétition, de représentation du football français, parce qu'aujourd'hui, c'est le football le plus cher après la Première Ligue, et à chaque fois de ne pas avoir de représentants dans le dernier carré, les quarts de finale, enfin, sauf l'OM dernièrement. Ouais. Et puis ça peut commencer là, dès le mois d'avril, parce que là, on parle d'un vœu sur 2020 en général, mais avril, mai, ce serait bien que le PSG, qui est aujourd'hui le seul représentant digne, on va dire, sur plusieurs années, des clubs français en Coupe d'Europe.
Ah
bah, ouais. Oui, digne.
Bon, en tout cas, c'est celui qui. Non, mais Jonathan, c'est celui qui sauve pour l'instant l'indice UEFA.
Ouais, moi je pense que la dignité européenne du PSG, pour l'instant, c'est un paillasson. Et justement, on va voir cette année. Après la Barça et après Manchester, oui, la dignité européenne du PSG, je suis désolé, c'est un vrai paillasson.
Ouais, bah, c'est peut-être la dignité du football français en Coupe d'Europe.
Mais c'est ça, ça va dans ton sens, c'est que ça envoie. C'est le pire.
Ouais, sans le PSG, t'es derrière l'Ukraine.
C'est intéressant de voir le débat là entre Jonathan et Damien sur le PSG. Et quelqu'un qui aime bien quand même l'Olympique de Marseille.
Oh mais ça on s'en tape. Je te dis ça. Faut voir les choses en face. Pour l'instant, le Damien a raison. À part la finale de l'OM, à part l'épopée monégasque, on n'a rien fait en Coupe d'Europe. Parce que ne me dites pas Rennes, ils ont passé le Bétis quoi. C'est tout quoi.
Moi de toute façon, je suis complètement d'accord avec Damien. Et par contre, je pense que sur un des aspects, il se trompe quand il pense que les clubs français, il y a eu une époque où ils ont pris cette compétition un peu, comme on dit, à la légère. Mais aujourd'hui, ils la prennent plus du tout à la légère. C'est juste que factuellement, et ça aussi tu l'as dit, au niveau du niveau, que ce soit par rapport à la Belgique, à l'Autriche, à la Pologne, aux meilleures équipes, je parle pas du tout le championnat, je parle de... On n'arrive pas à rivaliser avec le top 2, top 3 roumain.
Donc Rennes est moins bon que Cluj, c'est ce que tu es en train de
mais
me dire.
Bien sûr que oui, mais il faut arrêter de croire que... Attention, je vais pas dire que sur une confrontation directe, les Rennais peuvent pas éliminer Cluj, c'est pas ce que je dis. Mais puisque tu me parles de cette confrontation, on l'a vu. Cluj, ils ont failli se qualifier pour la Ligue des Champions. Faut quand même respecter ce genre de club. C'est des clubs qui travaillent bien, on en a parlé. Qui n'ont clairement et énormément moins de moyens que les clubs français.
C'est exactement ce que disait tout à l'heure. Le problème,
ils travaillent très bien. Ils ont les meilleurs joueurs de leur pays à eux. Ils ont aussi les meilleurs joueurs
des étrangers. Ils recrutent bien. Tu me parles de Cluj, mais Cluj, ils sont capables d'aller prendre des bons joueurs non roumains.
Ils ont un joueur comme Omrani. Bon, on pensait pas forcément au niveau pour l'Olympique de Marseille, mais là-bas, il s'éclate. Il est dans un club où il s'épanouit complètement. Mais même des clubs chypriotes, sans parler même bien sûr des clubs grecs.
Je vais un peu loin.
Mais surtout,
il y a des clubs chypriotes. L'Apoel Nicosie.
Oui, d'accord, mais
c'est des belles équipes. Je dis pas que c'est des grandes équipes européennes, mais c'est des équipes qu'on doit respecter.
Moi,
quand tu parles des
clubs comme ça, on va dire des clubs chypriotes.
Il y en a deux, pas.
Les deux clubs, le problème, les petites déconvenues qu'on a eues, je pense que là, justement, Damien avait raison, c'est parce que les clubs en face les ont pris de haut.
Ou pas.
Et ont pris le truc à la légère.
Ouais, ça marche une fois, ça. Par contre,
là où tu as raison,
tu les prends de haut la première saison, mais la deuxième, t'es quand même prévenu.
Par contre,
Alexandria,
on en est là où je rejoins Kevin, c'est qu'il faut voir les choses en face. Nos clubs qualifiés en Europa League, notamment, sont du niveau des clubs roumains, sont du niveau des clubs chypriotes. Des meilleurs clubs roumains, des meilleurs clubs chypriotes, enfin du moins ceux que tu rencontres en Coupe d'Europe. Et on ne peut avoir aucune certitude.
Il y a aucune marge en fait.
Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nos clubs travaillent très mal. Alors qu'à l'étranger, et là ta remarque était juste, à l'étranger où t'as peut-être un petit peu moins de moyens et du coup t'as moins de marge d'erreur pour te planter. Tu sais, c'est comme quand t'as plein de thunes, t'achètes n'importe quoi dans les boutiques.
Exactement.
Bon, et ben là, nous, je suis désolé, à force de faire comme ça, on se retrouve en Ligue Europa à se prendre les pieds dans le tapis, alors que c'est les gens font les surprises, alors que ça devrait pas être une surprise. Parce que nos clubs sont tout aussi moyens.
Après, il y a rien d'infamant en soi à être aujourd'hui au niveau des Européens du championnat portugais.
Oui, bien sûr.
Nous,
les Portugais, ils ont 4 ou 5 clubs en Europa League.
On s'est endormi. On a cru que pendant un moment, justement, avec notre formation à la française, on allait pouvoir garder cette avance. Sauf que les autres nous ont pas attendus. Ils ont tous bossé. Ouais. Et aujourd'hui, tu vas jouer contre l'Azerbaïdjan, contre qui tu veux, je peux te dire que ces équipes-là, elles bossent, ces champions, ces ligues, ça bosse, et ils ont un système de fou, ils ont un football qui est différent du nôtre, mais qui est très performant.
Exactement.
Aujourd'hui, nous, il faut maintenant, on s'est remis à bosser, je pense. Maintenant, les effets, je l'espère, vont se faire sentir sur les prochaines années, mais il faut aujourd'hui qu'on retrouve l'avance qu'on avait.
Ce qui fait très mal, c'est quand tu compares à budget égal, tu vois. Bah, quand tu compares les budgets des clubs de Ligue 1 et les budgets de ces clubs en Coupe d'Europe,
c'est pour ça que les droits télé ne seront plus une excuse. Les droits télé ne seront plus une excuse, c'est pour ça.
Damien, on a bien compris ton vœu et je crois que c'est un vœu que partagent beaucoup de gens, effectivement, que les clubs français prennent enfin conscience qu'il faut performer en Coupe d'Europe et travailler pour ça. Benjamin est au 32-16 à 21h31 dans l'After. Bonsoir, Benjamin.
Bonsoir, l'After.
Merci d'être là.
Bonjour, Benjamin. Bonsoir, donc, je suis Benjamin, le supporter de Lens.
Supporter, bonsoir. Mais oui, bien sûr.
Benjamin. Salut, on sait ce qu'on doit te souhaiter pour 2020.
J'imagine que tu as un vœu pour ton club, de cœur.
J'ai deux vœux. J'ai un vœu pour vous. J'ai envie que vous continuiez à nous faire vibrer, que vous continuiez à vous engueuler, que vous continuez à nous apprendre des choses sur le football, parce que nous, enfin, moi personnellement, tous les soirs, je vous écoute. Vous nous faites oublier le quotidien. Et avec vous, on prend du plaisir. Et que ce soit l'équipe de l'After ou les super subs, eh ben, il n'y a pas de différence.
Merci. Vas-y. Bravo, on l'applaudit. Merci beaucoup, Benjamin. Là, tu commences bien l'année, hein, tu vois.
T'auras un t-shirt et un cadeau et François Pinet me dit qu'il t'offre un voyage.
Un voyage pour venir nous voir dans l'After, sur RMC, bien sûr.
Vous allez venir le faire à l'After, vous allez venir le faire à Lens si on monte.
Ah, bah oui. Ah, bah, c'est ton deuxième vœu.
Tout ça, Mazingarbe. Et voilà.
Eh ben, mon deuxième vœu, moi, c'est que mon club de cœur qui m'a adopté me refasse vivre le même match que l'année dernière avec mon beau-frère contre Dijon, mais avec une victoire. Ce qui peut nous permettre de monter en Ligue 1. Mmh. Parce que l'année dernière, pour vous expliquer, que ce soit les matchs contre Paris, contre Troyes et contre Dijon, le cardio, il est à 240. Prendre tout le match, c'était un truc de ouf. Que ce soit à Lens, dans les bars, ou quand c'était à Bollard, c'était juste extraordinaire.
Ouais. Benjamin,
et quand
j'espère,
vous voyez que le peuple lensois, qui était en transe contre Dijon, c'était rien que d'en parler, j'en ai des frissons.
Mais tu veux revivre les barrages là ou quoi?
Voilà, c'est ça, Benjamin, j'allais rebondir là-dessus.
Moi, je veux les revivre.
Parce que pour l'instant, Lens est en tête, et donc pour l'instant, si ça en reste là, Lens remonte tranquillement.
Un titre de champion, une montée, tu veux pas?
Ah là, il veut vibrer.
Oui, effectivement, une montée directe, ce serait extraordinaire. Mais revivre l'intensité, la joie, la ferveur lensoise, mais je signe tout de suite.
Très bien.
Honnêtement, moi qui ne suis pas lensois d'origine, j'ai été adopté par Lens.
T'es d'où, à la base?
Moi, je suis Mâcon d'origine.
D'accord.
Je suis bourguignon.
Ça fait combien de temps que t'es à Lens?
Et moi, j'étais à Lens pendant 5 ans, parce que mon travail, et là, je suis reparti de Lens.
Okay.
Je rechange le travail. Mais la chose est que, vous voyez, pour Noël, pour mon beau-frère, je lui ai fait plus beau cadeau, je vais faire un abonnement pour Lens.
Magnifique.
Et il m'a dit que c'était le plus beau cadeau que tu pouvais me faire.
Mais c'est magnifique. Et c'est vrai que ça serait beau de retrouver Lens.
Je partage avec vous un souvenir quand même par rapport justement à ce stade Bollard. À deux journées de la fin avec Boulogne, donc on est en Ligue 2 et on joue à Lens. Cet avant-dernier match, et si on gagne ce match contre Lens, on joue à la maison notre dernier match contre Amiens pour valider la montée. Et donc on gagne 1-0 à Lens, et donc franchement une ambiance extraordinaire entre les supporters boulonnais, donc du Pas-de-Calais, et également les Lensois. Et à la fin du match, donc on gagne, on rentre tous au vestiaire, et il y a eu envahissement du terrain des supporters lensois qui sont allés devant la tribune des Boulonnais, et il y a eu une reprise en cœur des corons de Bachelet. Mais c'était une ambiance incroyable et exceptionnelle qui est gravée à vie.
Voilà Benjamin, merci beaucoup. Merci encore d'être
salut
passé
Benjamin,
dans l'After et tu reviens quand tu veux, évidemment.
Et avec grand plaisir. Et l'invitation, je l'attends. Si vous m'invitez, je viens.
T'es le bienvenu.
T'es toujours le bienvenu, mon pote.
T'inquiète pas pour venir nous voir sur RMC. Merci beaucoup encore. Et bonne saison, bonne deuxième partie de saison pour Lens. Voilà, ça c'est pour faire vibrer Damien.
Ah. Ouais.
Très belle chanson.
Et quand on est sur le terrain, on vibre avec ça, je vous le dis.
Voilà, d'autres messages évidemment, puisqu'on vous proposait, on vous propose toujours, vous pouvez continuer sur le hashtag mon vœu foot 2020 de nous dire ce que vous voulez. Par exemple, Hamzaoui souhaite que Monaco s'achète une défense, voilà, pour 2020. Ouais. Ça c'est un vœu, on va voir si ça va être fait avec le nouvel entraîneur Moreno. Que le Stade Rennais se qualifie pour la Ligue des Champions, nous dit Kevin Smith, et pour l'instant c'est bien parti. Voilà. Et puis il y a Eric qui nous dit sur l'appli RMC Direct Studio, mon vœu pour cette nouvelle année, que mon cher P PSG retrouve enfin le dernier carré de la Ligue des Champions et qu'il refasse le quadruplé. Et puis j'espère aussi une victoire de l'équipe de France à l'Euro. Justement, puisqu'on parle du PSG, Christophe est avec nous au 32-16. Bonsoir Christophe.
Bonsoir messieurs, meilleurs vœux.
Salut Christophe.
Bonne année à toi également.
Meilleurs vœux. Moi j'ai trois vœux, mais avant je vais répondre à Jonathan parce que il a dit que le Paris Saint-Germain était le paillasson de l'Europe.
Mm-hmm. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la dignité, la dignité européenne du Paris Saint-Germain est devenue un paillasson.
Jonathan, c'est exactement tes mots. Alors,
non, parce que non, j'ai dit. Bah non, parce que déjà tu racontes n'importe quoi. J'ai dit non, mais j'ai dit la dignité européenne du PSG est un paillasson. Donc déjà, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Non, mais t'es bête en fait. Attends, parce que t'écoutes pas.
Jonathan, t'écoutes pas ce que je dis. Christophe,
déjà, ne défends pas mes propos. Déjà, ne défends pas. Non, mais défends pas mes propos déjà.
C'est très important aussi. Christophe, moi, écoute-moi.
Non, t'as pas écouté.
La dernière fois que t'as fait la Ligue des Champions avec ton club, vous avez mis zéro point, les mecs.
C'était pas la dernière fois, mais
alors,
soit si tu veux.
Ton champion de project depuis la dernière fois.
Mais on s'en fout, ça. Pourquoi je me parle de l'OM? T'es bête, en fait.
Attends, Jonathan, laisse finir, Christophe.
Et puis, mais t'es sot. T'es sot, parce que. Mais t'es un peu sot, mon pote. Parce que, en fait, on s'en fout de l'OM, là. On parlait du Paris Saint-Germain et de son parcours de Ligue des Champions.
Par respect pour un club, tu dis pas que c'est le paillasson de l'Europe. C'est... Tu vois?
Alors tu changes tes propos.
Mais
Jonathan,
c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit,
non,
je
maintiens. Hein.
Alors Christophe, il va changer. Jonathan va changer ses propos.
Alors,
il a
je redis exactement ce que j'ai dit. Je le maintiens. La dignité européenne du passon, la dignité européenne du Paris Saint-Germain, pour l'instant, c'est un paillasson.
Voilà. Ouais, bon, ouais, parler du seul club aujourd'hui qui représente les points de la France au niveau des clubs.
On s'en fout. Bon, t'as peu pourquoi sinon.
Bon, on a compris ton message, Christophe.
Détends-toi les oreilles, écoute un peu mieux, ça t'aidera. Bon, je pense à une compréhension un peu plus intelligente.
On va commencer l'année sur un sourire. Vas-y, Christophe.
J'aime t'écouter, j'aime que tu t'écoutes parler, c'est toujours très agréable. Voilà. Alors, mon premier vœu.
Vas-y, Christophe.
Mon premier vœu, c'est évidemment que Paris gagne la Ligue des Champions. Parce que comme ça ferait du bien au football français. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas gagné. Donc du coup, ça serait bien qu'un deuxième club français gagne la Ligue des Champions. T'as vu, Jonathan, je suis pas con. Hein. Deuxième chose, j'aimerais que Tourelle arrête le Prozac.
Bon, ça, on est d'accord, par contre, exactement.
Qu'il arrête de pleurer, parce que vu l'effectif qu'il a, ce qui serait bien, c'est qu'il nous montre pourquoi il est venu. Parce que jusqu'à présent, depuis 2 ans qu'il est là, moi, j'ai rien vu.
Ah, les 6 premiers mois, quand même, Christophe.
Non.
Et là, en ce moment, là.
La dernière fois
qu'il
a très bien joué Paris, c'était Laurent Blanc, bien que Daniel adore dire que Blanc, c'est un champion de golf. Moi, la dernière fois que j'ai bien vu jouer Paris, c'était.
T'as pas le droit de dire ça.
On peut pas dire ça. Le match à Barcelone,
c'est le plus beau match du PSG.
Non, mais attends, Christophe, écoute, les 6 premiers mois de Tourelle, franchement, tout le monde est assez.
Et puis même juste avant la trêve, là, c'est pas mal aussi.
Ce qui serait sympathique, c'est que, quand même, il faut quand même se rendre compte d'une chose. L'effectif qu'il a, Christophe, si tu peux me permettre,
juste...
On devrait avoir un plus beau jeu, quand même, non?
Vas-y, Kevin te répond.
Christophe, si tu peux me permettre, je vois tout à fait ce que
Kevin,
tu veux dire. Bien sûr qu'il a un bel effectif, mais je vais te poser une question. Ok. Excluons Klopp et Guardiola qui sont aujourd'hui inabordables pour le PSG, je veux dire, parce qu'ils sont très bien dans leur club, je pense. Mais quel entraîneur, vu tout ce qui s'est passé sur et en dehors du terrain au PSG, quel entraîneur aurait vraiment la main sur cet effectif et sur entre guillemets, notamment la gestion des stars?
Moi, j'en vois.
Donne-le-moi.
Qui aurait pu mettre tout le monde d'accord en disant à Neymar de se calmer et d'aller jouer dans sa chambre?
Si tu me dis Mourinho, je te dis tout de suite non.
Oh non, je t'en prie. Attends, tu veux que je déprime ou quoi? Tu veux que je sorte une corde?
Ah bah non,
t'as vu Tottenham jouer cet après-midi? Sérieux, Mourinho?
Alors qui alors?
Non. Le seul, c'était Carlo.
Carlo Ancelotti.
Il pouvait revenir.
Oui, mais Carlo Ancelotti, il était à Naples dans un projet qui marchait assez bien. Donc, tu vois ce que je veux dire. C'était juste pour te donner un exemple et une réflexion dans le sens où aujourd'hui, c'est pas pour défendre Tourelle, mais c'est pas forcément facile de gérer.
Le problème, si tu veux vraiment analyser la situation, c'est pas forcément l'entraîneur par rapport à l'autorité. C'est le fonctionnement du club et c'est le président. L'autorité doit venir de l'institution. Et
depuis que Leonardo est là, ça va mieux quand même.
Ça va mieux depuis que Leonardo est là parce qu'il y a enfin un cow-boy dans la ville. Mais en l'occurrence, Nasser a été beaucoup trop permissif et ce qui a un petit peu gangréné le fonctionnement de ton club.
Je suis d'accord avec ça. Je pense que depuis depuis le départ de Leonardo, on n'a pas su le remplacer. Donc,
si vous l'avez, vous avez réussi à le remplacer.
On sent par Leonardo. Tout de suite, on sent tout de suite que les joueurs là maintenant, ils la ramènent beaucoup moins. Et c'est ce qu'il nous fallait. Donc c'est pour ça que j'y crois quand même un peu plus par rapport au projet.
Et ton troisième vœu, Christophe, tu en avais un troisième. Vœu, normalement, t'en bloques un.
Là, vous allez être surpris, mais mon troisième vœu, c'est que Aulas s'occupe de l'institution de son club qui n'a plus rien gagné depuis 2012 et qui lâche une bonne fois pour toutes le Paris Saint-Germain. Oh. Parce qu'il est sans arrêt en train de critiquer les budgets de Paris. Je dois lui rappeler à M. Aulas, qui a fait une interview chez vous, mais carrément grotesque, chez Dugarry, qu'il a quand même, aujourd'hui, il doit être 11e
12e,
10e du championnat.
12e.
12e du championnat. Et les 11 clubs qui sont entre lui et Paris.
Ouais, t'as raison là-dessus.
Non mais c'est un problème de budget d'accord. Ou c'est juste un problème de gestion de son club. Donc,
bon, alors Christophe, savez, je ne sais pas si Jean-Michel Aulas t'entendra.
Quand tu dois prendre des décisions, tu dois prendre des décisions au sein de ton entreprise.
On a bien
et pas de regarder ses concurrents.
Eh bien écoute, les vœux sont passés. Ça fait longtemps que Jean-Michel Aulas n'a pas entendu dire du mal du PSG, mais bon, il a beaucoup de choses à s'occuper.
Christophe, tu t'es payé Jonathan, Aulas et Tourelle.
Voilà, allez, bonne année Christophe, bonne année avec le PSG. On prend la direction de l'Emirates à Arsenal Manchester United, Clément Brossard.
Et les Gunners se font le break grâce à Sokratis. On parlait de retour. Siad Kolasinac a été ô combien important sur le premier but passeur décisif pour Nicolas Pépé. Et là, c'est le Grec Sokratis de retour lui aussi après une commotion cérébrale lors du match contre Bournemouth qui vient propulser ce ballon au fond des filets de David De Gea à la retombée d'un corner. Alors on voyait venir de loin ce break pour Arsenal. Ça faisait 10-12 minutes que les Gunners s'étaient montrés dangereux, d'abord par une grosse occasion signée Alexandre Lacazette, ensuite par Lucas Torreira qui a trouvé de très peu le cadre du gardien espagnol, et ensuite le poteau de Nicolas Pépé qui est venu sauver à nouveau David De Gea. Cette fois, et ben c'est le supplice pour le gardien de Manchester United, et c'est plus que mérité. À 2 minutes de la mi-temps, Arsenal mène 2-0 face à Manchester.
Comment on dit le nom, parce que Sokratis c'est son prénom, comment on dit son nom au buteur?
Tu veux me bloquer, mon cher François. Tu veux me bloquer.
Alors on va le tenter
pour moi. Sokratis, son prénom. Papastastopoulos.
Ouais, bon, c'est un truc comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle Sokratis d'ailleurs. Sokratis. C'était juste pour te piéger, voilà, juste en début d'année.
Un bon travail de Lacazette au premier poteau.
Oui.
Ouais, Lacazette qui réalise de très bonnes choses depuis 10 minutes. Tout à l'heure, elle nous a fait le tour de Harry Maguire et Damien, tu es bien placé ça prend du temps parce que c'est quand même une bonne baraque. Harry Maguire, il a réussi à faire le tour et d'un pointu il est venu voir ça, enfin il a vu sa frappe à quelques centimètres là, tromper David De Gea. Il a vraiment eu chaud depuis 5-6 minutes le gardien espagnol, et ben cette fois ça fait pas de surprise. Manchester United qui est méconnaissable, on ne voit ni Rashford, on ne voit ni Anthony Martial. Peut-être sur cette opportunité Marcus Rashford à l'entrée de la surface de réparation, non, c'est encore une fois un très bon retour d'un défenseur des Gunners. Ils sont vraiment solides derrière, on voit la patte Mikel Arteta vraiment depuis 3 matchs. On sent que défensivement Arsenal c'est quand même plus costaud, et ça fait la différence de 0 à une petite minute de la mi-temps maintenant pour les Gunners face à Manchester.
Ok Clément, on te retrouve évidemment pour la suite de ce Arsenal Manchester United. Il y a par exemple Antonin pour les vœux 2020 qui nous dit sur l'appli RMC Direct Studio, mon vœu pour Saint-Etienne est de changer de présidence. Voilà son vœu. Frédéric est avec nous au 32-16 dans l'after à 21h44. Bonsoir Frédéric.
Bonjour l'after.
Salut Frédéric.
Je vous souhaite meilleurs vœux.
Belle année à toi aussi mon pote.
Meilleurs vœux.
Alors moi, pour la seule chose
supporter de Marseille.
Supporter de Marseille. Je ne suis que supporter de Marseille. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain, le Lyon, ne m'intéresse pas. Rien de compte, moi, c'est Chloé qui m'intéresse, j'ai joué là-dedans. Par contre, ce que j'aimerais, comme vœu, ça veut dire qu'on essaye de garder l'osmose qu'il y a, ça veut dire l'équipe qui est actuellement, essayer de pas, parce qu'on est quand même on est une équipe assez, on tire le maximum d'un effectif qu'on a, donc je ne voudrais pas perdre un Sanson, si vous préférez, un joueur quand même, parce que le milieu de terrain, par exemple, Chloé, je le trouve assez complet. Donc j'aimerais juste qu'on remplace Trotman et qu'on ils comprennent quand même un attaquant supplémentaire pour, à la limite, pour remplacer Germain, pour avoir plus de profondeur. Ah. Et donc, j'aimerais qu'on accroche la deuxième place et que soit européen pour qu'on puisse éventuellement avoir un effectif de qualité supérieur l'année prochaine. Et que j'aimerais aussi que les gens arrêtent, certains, alors certains spécialistes, de donner tout de suite à bout de 3-4 matchs en championnat, il y a des gens qui connaissent le football, des gens qui m'attristent un peu, de donner des avis définitifs sur certaines équipes. Quoi. C'est-à-dire, moi, je me rappelle, au bout de 5-6 matchs, l'OM allait terminer 16e, 15e, 18e. Il y a des gens qui connaissent le football.
Et Benedetto, c'était une pipe aussi.
Hein?
Et Benedetto, c'était une pipe aussi.
Certains disaient ça. Exactement, voilà. Ouais. Et en plus, ça me gêne. Alors, vous voyez, moi, je vous dirais honnêtement, qu'on traite d'un joueur qui soit pas bon, qui soit machin, il est mauvais, et qu'on les traite de pipe, qu'on se moque. Il y a des mots, ça n'a rien à voir avec le football. Hein. Moi, si on me traite de pipe, je suis pas footballeur, mais vous voyez, je vais réagir d'une façon différente. Quand il n'est pas bon, je l'aime pas, c'est un joueur je pense qu'il ne vaut rien, qu'il n'a pas de qualité, ça n'a pas de souci. Mais qu'on les traite de pipe, ça me gêne beaucoup plus. Et aussi autre chose, quand j'entends le supporter du Paris Saint-Germain, là, tout de suite, qui attaque Jonathan, justement, allez, l'Olympique de Marseille.
Qu'est-ce qu'il y a de Marseille, là? Bon, on va pas revenir sur ce débat, voilà, on parle pas du PSG.
C'est dramatique de les voir. Moi, je crois qu'ils sont complexés.
Bon, je sens que cette année 2020 est bien partie entre le et le PSG, hein, c'est vraiment
tu
bien
veux
parti.
Pas plutôt, tu voudrais pas plutôt un ou deux latéral ou latéraux à la place d'un attaquant?
Un latéral de plus aussi.
Mais ça, pour le mercato d'hiver, ça va être compliqué.
Ça me semble être la priorité, un latéral gauche.
Mais tu vois, moi, j'aimerais trouver un joueur qui prend l'espace, qui va très vite. On l'a pas ce joueur. Benedetto, c'est un joueur d'appui, c'est un joueur de pointe qui
exactement,
est
ouais.
très bon, qui est intelligent. Mais si on est dominé et qu'il faut le lancer en profondeur, il y va pas.
Ok. Et ben on va prier pour que Flotovin revienne vite alors. Hein.
Voilà.
Voilà.
Merci beaucoup Frédéric. Merci d'être passé dans l'after. Et bonne année à toi. Salut, encore. Bonne année 2020. La mi-temps Arsenal Manchester United, Clément.
La pause en effet, 2-0 pour les Gunners face à Manchester United. Le premier buteur, Nicolas Pepe, donc à la 8e minute. Socratis pour le break à la 43e. Une victoire d'Arsenal à domicile. C'était plus arrivé depuis le 6 octobre. Pour l'instant, c'est très bien parti. On va quand même prendre nos précautions par rapport à ce qui s'est passé contre Chelsea il y a quelques jours. Mais pour l'instant, Arsenal remonte à 4 points de l'adversaire du soir. Arsenal mène 2-0 à la pause.
Merci beaucoup Clément. Dans un instant, notre invité dans l'after, Neil Maupay, le meilleur buteur français de Première Ligue, sera dans l'after. Et oui, c'est le meilleur buteur à égalité avec Anthony Martial, avec 7 buts marqués avec Brighton. On parle avec lui de la Première Ligue, de son parcours particulier justement dans un instant dans l'after. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. François Pinet.
Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue dans ce tirage au sort.
Les bonnes résolutions de l'année 2020.
De l'AS Saint-Etienne.
Revoir sa garde-robe. Hein, je mets Robert Béric. Sûr.
Passer moins de temps devant un miroir.
Non, j'avoue, je mettrais cheveux.
Je mettrais rien, c'est vrai.
C'est facile. C'est facile, ouais. Il passe beaucoup de temps à mettre son sèche-cheveux, entre le gel et tout.
C'était les vœux de l'AS Saint-Etienne pour cet after, le premier de l'année, 21h50 sur RMC. On est avec Jonathan McCarty, Damien Perinel, Kevin Diaz. À partir de 22h pour l'ouverture du mercato d'hiver, on vous pose cette question. Quel est pour vous le transfert de la décennie, le transfert le plus intelligent, le plus marquant,
le
plus surprenant, ce que vous voulez? On vous attend au 32-16 à partir de 22h. Et sur le hashtag qu'on a mis en place également, une décennie de mercato. Hashtag une décennie de mercato sur Twitter. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos vœux pour 2020. Vous pouvez continuer. On essaiera de relayer vos vœux à l'antenne. Mais d'abord, il a 23 ans et il joue à Brighton. Il est le meilleur buteur français de Première Ligue. Neil Maupay est avec nous. Bonsoir Neil Maupay.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous dans l'after parce que tu as joué aujourd'hui avec Brighton cet après-midi face à Chelsea, un but partout. Brighton qui est 14e de Première Ligue. Tu as même eu la balle de la victoire au bout du pied en toute fin de match. Est-ce que tu y penses encore là actuellement ou ça y est, t'es passé à autre chose?
Non, j'y pense encore un peu. Voilà, on a fait un bon match et j'aurais pu donner la victoire à mon équipe. Je suis un peu déçu, mais leur gardien a fait un bel arrêt sur la ligne, donc c'est un peu frustrant, mais quand même content du résultat, parce que c'était un match compliqué cet après-midi.
Avec un but incroyable quand même de ton coéquipier, Jahan Bakhsh, l'Iranien, une bicyclette pour égaliser en fin de rencontre. Ça a dû faire plaisir à tout le groupe, parce que c'était un joueur qui était un petit peu en difficulté, décrié. Certains disaient que c'était le plus gros flop de Première Ligue depuis son arrivée il y a 2 saisons. Je pense que vous avez fêté ça dignement, tout le groupe, son but.
Ouais, bien sûr. Il a une période compliquée. Voilà, depuis qu'il est arrivé à Brighton, il n'a pas vraiment eu sa chance. Mais voilà, il a une super mentalité. Il n'a jamais lâché. À l'entraînement, il s'entraîne très bien. Et sur les derniers matchs, voilà, il a eu l'opportunité de jouer. Et aujourd'hui, voilà, il met le but de l'égalisation, un but extraordinaire. Donc, on était vraiment tous contents pour lui parce que il mérite. Et puis pour l'équipe, forcément, ça nous a fait du bien.
Damien Perrinel est avec nous. Il veut te poser une question.
Salut Nil. Je voulais savoir un peu qu'est-ce qui a changé pour toi en allant en Angleterre. Pas forcément même dès tout de suite à Brighton, mais même à Brentford, dans ta manière peut-être d'aborder ton métier, d'appréhender les matchs avant les matchs, la compétition, et une fois que le match est terminé, voilà, ta semaine, comment tu te sens dans les clubs en Angleterre, et les différences que tu peux y voir avec ce que tu as vécu à Saint-Etienne, à Nice ou à Brest même.
Bah pour moi, ça a été un changement énorme, voilà. Je connaissais rien de l'Angleterre quand je suis arrivé ici à Brentford en deuxième division. Voilà, dans un championnat très difficile à 24 équipes, donc il y avait énormément de matchs. Voilà, une intensité clairement au-dessus de ce que j'avais connu en France. Donc pour moi, ça a été
au-dessus
le plus
de la Ligue 1.
Oui, c'est au-dessus de la Ligue 1. Pour moi, en championship et en première ligue, voilà, le rythme des matchs, l'intensité. C'était plus difficile pour moi, donc c'était ça la plus grosse différence que j'ai notée. Et puis voilà, maintenant que je suis en première ligue, c'est un tout autre niveau. Tous les week-ends, on joue des grosses équipes. Il y a pas de victoire facile, pas de match facile. Cet après-midi, on prend un point, mais on aurait pu perdre, on aurait pu gagner. Voilà, c'est on s'accrochait à tous les matchs et moi, je m'éclate ici.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ton parcours, et je pense que pour ceux qui écoutent l'after, ils sont intéressés par rapport à ça. Tu es parti en championship à Brentford, et effectivement, après, tu as découvert la Première Ligue, tu la découvres cette année. Est-ce que du coup, tu conseilles aux jeunes Français d'aller en championship pour se faire remarquer et pour après connaître une carrière en Première Ligue ?
Moi, ce que je conseille aux jeunes, voilà, c'est d'aller dans des clubs où on est désiré, entre guillemets, où on sait que le club compte sur nous, que le coach compte sur nous. Voilà, quand je suis revenu à Saint-Etienne de mon prêt à Brest, j'avais pas énormément le choix. Moi, je voulais sortir d'une bonne saison à Brest. Je voulais trouver un endroit où j'allais trouver de la continuité en termes de match. Voilà, je voulais jouer tous les week-ends. Et cette opportunité, je l'ai eue en Angleterre. Donc pour moi, j'ai pas hésité une seule seconde. Et puis je pense que en ce moment, on parle beaucoup de la Championship, on parle beaucoup de la Première Ligue, et voilà, pour moi, ça a été que bénéfique. Donc, pour moi, la chose la plus importante, c'est d'aller dans un endroit où on sait qu'on va avoir du temps de jeu, parce que quand on est jeune, on a beau s'entraîner tous les jours avec de très bons joueurs,
mais il faut jouer.
Ce qui nous fait progresser plus, c'est le temps de jeu. Et donc voilà, faut trouver cette opportunité, mais c'est pas évident.
Oui, Kevin Diaz.
Oui, et puis d'abord félicitations pour avoir fait ce choix-là, parce que il y a aussi Dembélé de Lyon qui était parti à Fulham à l'époque, et je pense que c'est vraiment courageux entre guillemets de ta part de t'être frotté à la Championship, parce que alors on sait qu'en France, dès qu'on dit qu'on est parti en deuxième division à l'étranger, bon, un peu moins en Angleterre, mais peu importe le pays, et je pense vraiment que la Championship, c'est, comme tu l'as dit, pas très loin. Alors, peut-être pas de la première partie des équipes de Ligue 1, mais au niveau de l'intensité, au niveau du taux de remplissage, tu peux peut-être nous en parler des ambiances de Championship. Et aujourd'hui, ce que tu arrives à faire avec un club comme Brighton en Première Ligue, franchement, félicitations.
Merci Kevin. Oui, c'est vrai que en Championship, je connaissais pas du tout quand je suis arrivé ici, mais j'ai de suite découvert un championnat très intense, très physique, les matchs sont très rythmés, et puis un niveau technique également très bon. Voilà, je connaissais pas ce championnat, je l'ai découvert, mais c'est vrai que quand je suis arrivé ici, voilà, j'ai entendu pas mal de personnes qui pensaient que j'étais un peu allé m'enterrer, mais voilà, ça m'a jamais traversé l'esprit. Moi, je voulais en fait juste jouer au foot, avoir du temps de jeu, jouer des matchs et marquer des buts, retrouver ce plaisir que j'ai pas réussi à retrouver en France. Et donc quand j'ai eu cette opportunité, je l'ai saisi, et voilà, maintenant on voit qu'il y a pas mal de joueurs qui rejoignent la Championship, notamment des joueurs français, parce qu'en fait en France ça reste peu connu, mais en Angleterre, voilà, c'est un pays qui vit pour le foot, et ici tous les matchs sont pleins, que ce soit en Première Ligue ou en Championship. J'ai eu la chance de jouer devant 40 000 personnes en deuxième division, et c'est quelque chose d'énorme. Ouais. Et quand on performe ici, et ben ça ouvre forcément des opportunités par la suite.
Pour l'instant, c'est un pari effectivement réussi par toi, Nil Maupay, donc dans l'after. Est-ce que tu exclus totalement un retour en France ?
Est-ce que j'exclus totalement retour en France? Pardon, j'ai pas entendu.
Oui, est-ce que tu exclus aujourd'hui un retour en France si un club t'appelle? Parce que comme tu performes maintenant, il y a des clubs qui se disent peut-être, tiens, il est intéressant. Est-ce que tu exclus un retour en France si t'es appelé par un club français prochainement?
Non, j'exclurai jamais un retour en France, forcément. C'est mon pays, c'est là où j'ai fait mes débuts. Mais je pense que quand on est bien dans un endroit, on a envie d'y rester. C'est pour ça que cet été, j'ai fait le choix de rester en Angleterre et j'ai jamais eu l'envie, entre guillemets, de rentrer en France parce que voilà, j'ai découvert une culture du foot et qui m'a plu et je me sens dans mon élément. Donc pour moi, si je peux faire une carrière en première ligue, j'en serais très heureux. Ouais. Et à l'heure actuelle, voilà.
Et on te comprend. Ça transpire sur le terrain, en tout cas.
Par rapport à tes performances, Neil, bonsoir.
On n'a plus beaucoup de temps, hein, Jonathan. Ouais.
Bah, disons, quand on te voyait jouer en Ligue 1 avec les Verts ou à Nice, on se disait, ouais, ok, c'est un joueur qui a quand même beaucoup de talent, mais il y a peut-être un déficit physique qui fait qu'il a du mal à s'imposer en Ligue 1. Et là, tu vas dans le championnat qui est réputé justement être le plus compliqué physiquement, et tu t'es comme un poisson dans l'eau. Alors, est-ce que tu as bossé certaines choses spécifiquement? Comment tu t'es adapté? Qu'est-ce que tu as changé justement pour arriver à ce niveau de performance?
Oui, bien sûr, quand je suis arrivé en Angleterre, voilà, j'ai de suite remarqué la difficulté physique qui m'attendait, mais notamment en championship avec l'enchaînement des matchs et la densité physique des équipes. Donc voilà, je savais que pour pouvoir performer ici, il fallait que je m'étoffe physiquement. Donc j'ai fait beaucoup de travail en salle justement pour pouvoir répéter les efforts, encaisser les contacts. Et puis voilà, j'ai toujours eu en coin de ma tête des joueurs comme Agüero, des joueurs comme Tevez qui ont performé pendant de nombreuses années, qui performent encore actuellement en première ligue. Et je me suis dit pourquoi pas moi. C'est pas parce qu'on fait 1m70 qu'on peut pas être bon en Angleterre malgré le défi physique.
Bravo.
Donc ouais, j'ai toujours cru, j'ai toujours cru en moi, travaillé dur et pour le moment ça me réussit donc je vais continuer.
Ben merci beaucoup Neil Maupay, merci beaucoup d'être Neil. Passé dans l'after
merci
pour ce
beaucoup.
Premier
merci
jour de l'année. Meilleur vœu à toi.
Et puis, bonne année à vous aussi.
On suit tes performances avec Brighton, donc en première ligue. Merci beaucoup. On revient tout de suite dans l'after avec la désignation du transfert de la décennie. Donnez votre avis sur Twitter et au 32-16. On vous attend.
RMC, 21h minuit.
L'after foot.